Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs sur France Culture, entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, l'émeute est-elle attirante? Jeudi dernier et hier, les deux journées d'action contre la réforme des retraites ont montré qu'il était possible de manifester dans Paris, par exemple, sans que cette démonstration de force se termine par un début d'émeute. Car depuis le début des années 2000, que ce soit lors des réunions du G7, des manifestations contre la loi travail ou encore lors des samedis des Gilets jaunes, la pratique émeutière est revenue sur le devant de la scène. La cristallisation sur les black blocs et sur les déprédations contre les biens commises par le cortège de tête, comme on dit, ont fourni aux médias l'occasion de feuilletonner sur les formes modernes de l'insurrection. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous allons le voir avec trois invités. Romain Huet est maître de conférence en sciences de la communication à l'université de Rennes 2. Il est auteur d'un livre qui vient tout juste de sortir aux presses universitaires de France, « Le vertige de l'émeute, de la ZAD aux gilets jaunes ». Nicole Klein est avec nous, elle est ancienne préfète de Loire-Atlantique, de Seine-Maritime, de la Somme. Elle a été également, après les émeutes de 2005 en banlieue, préfète à l'égalité des chambres. Et puis elle a dirigé le cabinet de François Drugy quand il était ministre de la Transition écologique et solidaire. Et enfin avec nous au téléphone, l'historienne Déborah Cohen, maîtresse de conférences en histoire à l'université de Rouen et auteure d'un petit livre très intéressant et très utile pour justement réfléchir à ces questions de révolution mais aussi de peuple. Il s'intitule « Peuple » et il est publié aux éditions Anamosa.
Dans le cortège du lycée, c'est genre hyper calme et je trouve ça chiant en fait. Ils sont là en rang avec leur drapeau et donc du coup je me dis bon, bah, on va essayer de trouver des gens qui gueulent un peu plus quand même. C'était après la mort de Rémi Fraisse, donc en novembre 2014. Et là je me suis retrouvée genre en plein milieu du truc avec des CRS partout qui te balancent des lacrymos. J'avais rien, j'avais aucun équipement, du coup je me suis protégée avec mon gilet. Et puis en fait, ça, plus j'y allais et plus ça m'énervait de voir les autres orgas qui étaient toutes molles à faire leur petit défilé. On est en colère contre un système, contre l'État, contre le capitalisme. Et puis les autres, ils sont là et on a l'impression que ça, enfin, ils sont là à défiler et puis on a l'impression que ça va rien changer.
Voilà le témoignage d'une jeune femme qui expliquait pourquoi elle a décidé de rejoindre le Black Bloc dans les manifestations. Il avait été recueilli en mai 2018 par Usul, auteur de la chronique « Ouvrez les guillemets » sur Mediapart. Bonsoir Nicole Klein, merci d'être avec nous. Bonsoir Déborah Cohen, merci d'être avec nous au téléphone depuis Rouen où vous enseignez.
Bonsoir.
Et bonsoir à vous Romain Huet, merci d'être là. Vous êtes l'auteur du Vertige de l'émeute, de la ZAD aux gilets jaunes. Vous n'avez pas beaucoup interviewé a priori pour votre travail de sociologue des gens qui avaient participé à ces black blocs ou à ces émeutes. Vous les avez observés. Vous dites qu'en fait il est utile de regarder les corps quand on s'intéresse à cette question de l'émeute, de voir comment ils agissent et ils interagissent dans une manifestation.
Oui, tout à fait. L'idée était de partir de l'expérience elle-même de l'émeute sans forcément susciter la parole des émeutiers, parce qu'il me semblait que l'essentiel d'une émeute réside moins dans les rationalités qui président à l'émeute que comme expérience corporelle, comme expérience charnelle du politique. Et donc tout le livre en fait porte sur qu'est-ce que l'émeute fait au corps, qu'est-ce qu'elle fait à nos affects. En fait, hein, l'émeute est considérée ici comme un tourbillon d'affects, et il me semble que son caractère désirable réside en partie, et pas seulement bien sûr, hein, sur cette expérience subjective très particulière.
Vous pouvez comprendre sûrement que ce terme de désir ou de désirable pour l'émeute peut choquer certains ou certaines de nos auditeurs, peut-être même votre voisine, on en parlera dans un instant avec elle, Nicole Klein, qui a été préfète. Mais néanmoins, c'est ce que vous voulez montrer dans votre travail, c'est-à-dire qu'il y a un entrain à rentrer dans l'émeute.
Voilà,
comme le raconte cette jeune femme, par exemple.
Bien sûr. Quand on parle de désir, ça signifie certainement pas qu'on la qualifie ou qu'on la disqualifie moralement. En fait, ça situe l'analyse sur un autre point. Et il me semble que son caractère désirable réside à peu près dans trois motifs essentiels. La première, donc, c'est comme expérience affectuelle. C'est-à-dire qu'ici, la politique, comme le dit la jeune femme en introduction, n'est plus une affaire abstraite, n'est plus une position de discours, n'est plus une contestation ritualisée, mais devient, en fait, une épreuve charnel. Et puis la deuxième dimension, c'est son caractère collectif, c'est-à-dire que c'est un entre-corps, c'est-à-dire qu'au fond, le corps est plongé dans les mains d'autrui, quelqu'un que je ne connais pas, dans lequel il va y avoir des mouvements de solidarité, dans lesquels il va y avoir en fait, en quelque sorte, une espèce de solidarité pendant le temps de l'émeute. Et un troisième point
qui est... Pas forcément avant et pas forcément après.
Exactement, non, c'est très ponctuel, c'est le temps. Moi, j'avais pas le seul, une pulsion de solidarité. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des mouvements égoïstes, hein, notamment dans les moments de retrait où c'est plutôt le corps de l'autre qui va gêner le déplacement, mais il y a cette pulsion de solidarité. Et puis, un troisième point qui est peut-être un peu plus compliqué, mais c'est peut-être en fait une espèce d'ivresse à faire surgir le pouvoir, quoi. C'est-à-dire à le manifester physiquement, notamment par les forces de police, alors que habituellement, le pouvoir est beaucoup plus discret, beaucoup plus indéchiffrable, nous traverse sans qu'on le discerne nécessairement.
Déborah Cohen, vous êtes avec nous depuis Rouen, vous êtes historienne. Évidemment, quand on s'intéresse à cette question de l'émeute, on ne peut pas ne pas penser aux grandes émeutes qui ont été décrites par l'historien Jean-Nicolas, par exemple, qui précède la Révolution française au XVIIe, au XVIIIe siècle, aux insurrections, etc. Est-ce qu'on peut définir le terme d'émeute par rapport au terme d'insurrection, ou est-ce que c'est tellement complexe qu'il est difficile de les séparer ?
Le mot émeute, hein, c'est très souvent une catégorie qui est exogène au protagoniste. Hein. Je pense que c'est Hugo qui disait une révolte qui échoue devient dans le discours hein, une émeute. Hein. C'est-à-dire qu'on parle d'émeute quand on veut dénier la légitimité politique hein, des acteurs qui sont impliqués. Et donc il est assez rare, en tout cas, au XVIIe ou XVIIIe siècle, que les acteurs et les actrices d'un mouvement dans lequel la violence va être utilisée dans une perspective émancipatrice parlent eux-mêmes d'émeute. Mmh.
Et d'ailleurs, des acteurs contemporains, comme ceux de 2005, des émeutes de banlieue de 2005, c'était à Villiers-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, ils ont été interrogés par Benoît Grimont, et la première chose qu'il fait dans son film qui s'intitule « La tentation de l'émeute », c'est de leur dire « C'est quoi une émeute ?»
Une émeute ? Voilà, petite colle là.
C'est vrai que c'est une bonne question. Un rassemblement de personnes qui veulent se faire entendre.
C'est un affrontement entre les forces de police et les jeunes des quartiers.
Pour moi, une émeute, c'est un rassemblement de jeunes et d'essayer d'aller foutre le bordel, en fait.
Avec des pierres, des cocktails Molotov, tout ce qu'on a sous la main, quoi, pour canarder les keufs.
Voilà, c'était un extrait du film de Benoît Grimont, La tentation de l'émeute, qui avait été diffusé en 2010, 5 ans après les émeutes de 2005. C'est pour vous, qui avez été préfète en Loire-Atlantique, en Seine-Maritime, dans la Somme, et qui avait été préfète à l'égalité des chances après, justement, les émeutes de 2005, en 2006. C'est quoi une émeute, Nicole Klein ?
D'abord, je pense qu'il ne faut pas mettre toutes les émeutes dans le même bateau, si je puis dire. Hein. Donc, il ne faut pas tout confondre. Moi, je voudrais d'abord commencer par parler du mot « désir », parce que qui dit « désir » dit « désirable ». Or, il y a aussi le désir de mort. D'ailleurs, la première personne que vous avez interrogée, elle part de Rémi Fraisse. Donc, il y a qui dit émeute dit aussi risque de mourir.
Risque, et... mais ça n'était peut-être pas désiré de sa part.
Non, il ne le désirait pas, justement. Et ce que je pense que les gens qui vont dans ces émeutes, d'abord, c'est pas tous les mêmes. Il faut pas mettre dans le même bateau les gilets jaunes, les zadistes, les émeutiers de 2005. Ils n'y vont pas tous avec les mêmes motivations. Et moi, ce qui me gêne dans cette adulation de l'émeute, c'est de les mettre tous sur un piédestal qu'ils ne méritent sûrement pas. Moi, quand j'étais préfète à Nantes, j'avais observé du commissariat de police une manifestation et j'avais vu des Black Blocs arriver très préparés. Donc peut-être qu'il y a un mouvement du corps, mais en tout cas, il est vraiment très préparé, avec un sac à dos dans lequel ils mettaient leurs habits, leurs capuches, leurs raquettes pour prendre les grenades qui pouvaient arriver sur eux. Donc j'y vois tout sauf un mouvement spontané. Donc c'est ce qui me gêne dans cette présentation, que je trouve assez romantique, mais assez peu proche de la réalité.
Alors elle est romantique aussi, Déborah Cohen, parce que nous avons tous des images. Vous citiez Victor Hugo, Les Misérables, 1830, 1832, des images qui sont des images littéraires qui nous ont été produites et que nous avons retranscrites. C'est vrai que quand on prend Les Misérables et qu'il parle justement étonné la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, prendre corps à corps le destin, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, le même éclair formidable va de la torche de Prométhée au brûle-gueule de Cambronne. Effectivement, il y a cette volonté de se mesurer dans l'espace public à un État, à un pouvoir, Déborah Cohen.
Oui, mais de s'y mesurer parce que alors moi je suis très très intéressée par le livre et par le discours de Romain Huet, mais je pense quand même très intéressant aussi de regarder ce qui se passe en amont de l'émeute et notamment de voir que l'émeute elle est presque toujours précédée de tentatives pour se faire entendre autrement. Je pense que c'est valable aussi bien. Je sais pas, on peut prendre justement des émeutes qui peuvent faire écho dans l'imaginaire national. C'est valable en Germinal en 3, c'est presque la fin de la Révolution, mais c'est valable le 14 juillet 89. Hein, voilà, peut-être quelque chose qui parle plus encore.
Ah bah, il faut lire Éric Villard, par exemple, pour pouvoir se rendre compte.
Par exemple, voilà, en fait, là, le Necker est renvoyé. En fait, il y a des manifestations qui très très pacifiques, qui demandent très concrètement des marches sans violentes, qui demandent son retour. Et il y a une surdité du pouvoir. Et je pense, c'est très valable aussi, je pense, y compris puisque Nicole Klein parlait de la ZAD. C'est-à-dire dans la ZAD, il y a des délégations qui ont rencontré la préfète, en l'occurrence madame, et il n'y a jamais eu de vraies négociations sur les projets des zadistes. Et donc après, quand on dit ça part en émeute, bah, c'est un point, c'est parce qu'il y a eu un point de non-retour hein, qui a été atteint, mais le désir de l'émeute, hein, il surgit pas comme ça, comme s'il n'y avait pas d'autres désirs à côté. C'est pas vrai que aussi bien avant la Révolution, pendant la Révolution, qu'aujourd'hui, le désir des gens, c'est pas de faire émeute, hein, c'est de vivre bien tranquillement avec leurs amis, leurs amours et leurs je pense, par exemple, le désir profond des zadistes, c'est pas de faire des émeutes. Hein. C'était là, en l'occurrence, d'établir une coopérative collective, ouais. Par exemple.
Alors justement, on va donner la parole à Nicole Klein.
Je suis obligée de vous répondre parce que j'y étais. Hein, et donc, j'ai reçu les zadistes à plusieurs reprises. Ils ont accepté de jouer le jeu, de venir en préfecture, d'enlever leur cagoule ou leur t-shirt revendicatif. Et on a discuté et aujourd'hui, je signale qu'on ne parle plus de la ZAD Notre-Dame-des-Landes, justement parce qu'on a trouvé un modus vivendi. Donc, il n'y a pas eu d'émeute. Parce que je ne les écoutais pas, il y a eu des émeutes, je les ai écoutées, ils sont venus, on a discuté ensemble, je suis allée les voir sur la ZAD. Donc là, je suis obligée de m'élever absolument en faux, c'est pas du tout comme ça que l'histoire s'est passée. Oui. Alors il faudra peut-être que je l'écrive un jour,
il faudrait peut-être
c'est
que
un
vous
de mes projets, mais vraiment, vous prenez les sources dans le sens inverse dans lequel ils se sont passés.
Romain Bette.
Oui, moi je suis assez d'accord avec Déborah Cohen sur cette idée que, alors déjà premièrement, qu'il y a bien évidemment d'autres désirs et que l'émeute n'est jamais en fait pensée comme une fin en soi, d'ailleurs par les gens qui la pratiquent. Et
puis deuxièmement, vous dites que l'émeute c'est politique de toute façon.
Oui, c'est évidemment politique et je crois que ça traduit effectivement un sentiment d'impuissance politique. C'est-à-dire qu'au fond en fait on s'est habitué à avoir relativement peu d'effet en fait sur les pratiques politiques, sur le réel, et qu'au fond finalement en fait cette impuissance, eh bien elle va trouver dans l'émeute une puissance de déclaration. Et au fond finalement dans une émeute, ce qui peut être aussi un petit peu fascinant, c'est que sur le coup, on a le sentiment, on peut éprouver le sentiment, encore une fois très ponctuel, c'est souvent très très symbolique, d'affecter concrètement le réel. Et comment on l'affecte le réel? Bah, notamment en fait en suscitant un pouvoir un peu égaré, en suscitant...
Vous pensez donc qu'effectivement il y a cette volonté de toucher le pouvoir par des manifestations qui vont finir par leur violence, et en particulier contre les biens, par être, dommageable au pouvoir public, et donc on a l'impression qu'on va pouvoir avoir du pouvoir sur le pouvoir, c'est ce que vous voulez dire Romain Bette.
Je pense que c'est moins en fait d'obtenir un pouvoir sur le pouvoir que de l'altérer, que de le griffer, que de lui jeter un peu de sel sur son cœur, quoi, en quelque sorte, quoi. C'est-à-dire qu'au fond, finalement, les effets politiques sont probablement assez mineurs, quoique, si on parle de la ZAD, sur le coup, bon, voilà, le projet d'aéroport a été abandonné. Si on prend les Gilets jaunes, encore une fois, je pense qu'ils ont fait un peu plus que gêner le pouvoir, il l'affecte considérablement, et au point d'ailleurs qu'aujourd'hui en fait on en fait un objet de préoccupation publique. Ce n'est pas rien, même si évidemment ici il n'y a pas renversement du pouvoir, il n'y a pas un effet plus substantiel.
Et vous disiez tout à l'heure Nicole Klein qu'il fallait distinguer. Vous avez reçu lorsque vous étiez avec François de Rugy au ministère de la Transition écologique et solidaire des Gilets jaunes, par exemple. Vous avez rencontré, j'imagine, après les émeutes quand vous étiez préfète à l'égalité des chances de 2016. 2005, vous avez rencontré sûrement des gens qui avaient participé à des émeutes en banlieue. Vous avez rencontré les gens de la ZAD. Comment distinguez-vous cela ? Qu'est-ce que vous, en tant qu'actrice sur le terrain, qu'est-ce que vous distinguez ?
Bah, écoutez, moi, ce que je voyais sur Notre-Dame-des-Landes, c'est que ceux qui se battaient avaient un projet qu'ils pouvaient d'ailleurs énoncer assez clairement. Et qu'ils ont fait quand je les ai reçus à plusieurs reprises, on en a discuté ensemble. Quand j'ai vu les émeutiers après la politique et que j'ai mis en application la politique de la ville, je pense que le message était beaucoup moins clair. Les gilets jaunes que j'ai pu voir dans le bureau du ministre d'État, ils n'étaient pas non plus extrêmement clairs sur ce qu'ils voulaient. Donc moi, je crois que les révolutions que a si bien décrites Victor Hugo, 1830, 1848, elles avaient un sens. Il s'agissait de renverser le régime, d'instaurer la République. Donc il faut distinguer les gens qui se battent avec l'idée de ce qu'ils veulent obtenir et ceux qui ne savent pas très bien ce qu'ils veulent obtenir. Je ne dis pas que leur lutte est vaine, je dis qu'ils sont beaucoup moins clairs sur le sens qu'ils donnent à leur lutte.
Oui, sur ce point Romain Huet et puis ensuite Déborah Cohen.
En ce qui concerne en fait cette idée d'avoir nécessairement en fait quelque chose de très très clair dans la tête, bon, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui traverse, en tout cas chez les zadistes et puis dans d'autres milieux, hein, c'est cette idée d'inventer des formes de vie qui échappent au système capitaliste. Ça, c'est déjà quand même un point extrêmement important. Maintenant, aujourd'hui, je pense que dans le présent, on est tenu à inventer une politique sans horizon. Et ça, ça me paraît assez clair, en tout cas sans certitude vis-à-vis de ces horizons-là. Donc, c'est pas si étonnant.
Sur les retraites.
Mais c'est pas si étonnant que ça que finalement on attend ce que les personnes qui contestent aient des idées très très claires sur ce qu'ils veulent. Finalement, au fond, c'est des attentes qui sont généralement très vagues et qui sont tenues d'être vagues dans une période de décomposition qu'on est en train de vivre. Il me semble que finalement, c'est pas si étonnant que ça.
Oui, qu'est-ce que vous en pensez sur ce point, Nicole Klein ? C'est-à-dire que la situation serait tellement hasardeuse pour un futur dont on ne sait pas très bien ce qu'il sera, puisque on nous parle effectivement du réchauffement climatique, on parlait tout à l'heure de Greta Thunberg dans le journal, etc. Tout cela fait qu'on ne sait pas très bien ce qui nous attend et donc il ne peut pas y avoir de véritable projet de contre-société qui puisse s'établir à un niveau national ou international.
Oui, moi le problème que j'avais à traiter, c'était justement un projet très concret sur un territoire et une volonté de faire des choses sur ce territoire. Donc ceux que j'avais en face de moi,
ils avaient un projet.
Et ils sont toujours là et ils essayent de mettre en œuvre leur projet. Hein, donc, et ils ne se battent plus, ils se battent toujours, mais pas de la même manière. Donc c'est ce projet-là que je connais le mieux et je pense qu'ils sont arrivés à peu près à ce qu'ils voulaient, parce qu'ils savaient ce qu'ils voulaient. Je pense que c'est extrêmement difficile.
Comme ceux justement du Larzac dans les années 70.
Absolument.
Déborah Cohen.
Oui, chose très très intéressante ce que dit Nicole Klein, parce que ça reconduit des discours sur l'émeute politique que les élites portent depuis le XVIIe siècle. C'est-à-dire que quand on regarde, je sais pas ce que dit Mercier sur la Révolution
française, Louis-Sébastien Mercier,
il y a une population ignorante qui est portée à la sédition, qui a une sorte de violence naturelle et qu'en fait elle sait pas trop ce qu'elle veut, cette populace Donc pour lui, en fait, voilà, si la révolution veut survivre, évidemment, il faut la modération des élites. Et ça, et donc il y a lui, mais évidemment tout le monde connaît aussi ce que dit Taine, hein, l'historien Taine, sur l'idée que les foules sont contrôlées par les parties les plus criminelles de la population, qui lui s'inspire.
C'est pas ce qu'a dit Nicole Klein.
Enfin, bien sûr, non, mais c'est pas bien sûr. chaque époque a ses manières de parler, mais ça, c'est l'idée de dire au fond, ces gens-là ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Ils sont là, ils sont dans la violence, on ne sait pas trop pourquoi, ils n'ont pas réfléchi. Ça, c'est vraiment un stéréotype très, très, très récurrent sur ceux qui entrent en rébellion contre le pouvoir.
Alors, il y a tout de même un discours qu'ils tiennent souvent, effectivement, c'est « Et la rue, elle est à qui ? Elle est à nous ». Donc il y a aussi cette volonté de reconquérir un espace public, de conquérir un espace public en l'occurrence, que donc les forces de l'ordre se doivent, en contrepartie, de protéger ou de conserver, etc. Nicole Klein, cette question de la place de la manifestation, la place de la rue, la descente dans la rue dans une société démocratique, c'est en tant que préfète, vous avez dû la poser 10 fois, parce que c'est à la préfecture qu'on va déposer une demande de manifestation.
Oui, mais moi je suis mal tombée parce qu'à Nantes, il n'y a plus de déclaration d'itinéraire depuis très longtemps.
Ah oui ?
Depuis qu'il y a eu un militant cégétiste tué dans les années 50, il y a un refus de
C'est ce qui est raconté dans une chambre en ville de...
Oui, De dans une chambre, ouais, exactement. Donc il y a un refus de toutes les organisations syndicales de donner leur itinéraire. Et en plus, si vous connaissez Nantes, les rues sont très étroites, donc le maintien de l'ordre est particulièrement difficile. Mais la rue, elle appartient à tout le monde. Hein, j'ai bien entendu le discours sur l'élite, bon, assez classique, assez banal, assez creux, moi je trouve, mais en tout cas, parce que je respecte tous ceux qui occupent la rue. Et donc j'ai vu Nantes dès samedi, où les gens ne pouvaient pas se promener, tout simplement se promener. Donc la rue, elle appartient à tous.
Oui, Romain Bette.
Non, mais je voulais revenir sur cette idée de rue. Elle est importante. C'est pas anodin que les gens clament la rue est à qui, elle est à nous. Il y a évidemment une contestation de la rue telle qu'elle est pratiquée en ce moment, c'est-à-dire la rue comme espace de circulation, la rue où on ne s'arrête pas, la rue en fait qu'on n'habite plus, en fait dans laquelle on est un peu en quelque sorte dépossédé de ce rapport à la rue. Et ça aussi, c'est un des éléments qui nous montre finalement ce que veulent précisément un certain nombre de personnes. Je crois un désir de vie, une attente en tout cas. Il y a une attente de densité existentielle qui est très très claire. Qu'elle prenne des formes très précises ou qu'elles prennent des formes vagues, finalement, au fond, je sais pas si c'est ça le plus important. Ce qui est important de considérer, c'est qu'effectivement, c'est pas quelque chose qui n'est non politique, quoi. C'est quelque chose qui a des visées quand même.
Disons que ça ne prend pas les formes classiques
exactement.
Du politique voilà. Telles qu'on les connaît depuis, mettons, une trentaine, une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Enfin, disons, depuis mai 68, effectivement, cette question-là se pose de façon peut-être très différente.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Il y a effectivement, c'était une ambiance de la manifestation du 1er décembre 2018 à Paris, donc manifestation des Gilets jaunes qui a tourné, comme on l'a entendu, de façon très dure et très violente, et qui peut-être aussi a fait peur aussi au pouvoir, parce qu'une des questions de l'émeute, c'est de faire peur au pouvoir, c'est de le faire se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose derrière cette manifestation de différent. Est-ce que vous vous êtes aperçu, Nicole Klein, justement, des changements liés à ces formes de prise de la rue dont on parlait à l'instant même? Est-ce que vous êtes aperçu qu'il y avait quelque chose qui bougeait et qui devait donc, du côté des forces de l'ordre, du côté du préfet, du côté du gouvernement, exiger une autre réponse que celle qu'on avait auparavant, parce que c'était un ordre différent qui devait s'exercer?
Alors, quand je parle de violence aux anciens, en particulier aux anciens préfets, cette violence, elle a toujours existé sous des formes différentes.
Pendant la guerre d'Algérie, par exemple.
Voilà, moi je pense que la préoccupation, moi j'avais été très, très impressionnée par le livre de Maurice Grimaud sur mai 68, qui m'a beaucoup inspirée, toutes choses égales par ailleurs, sur le fait que c'est la vie humaine qu'il faut préserver.
Il
faut qu'il n'y ait de mort, ni du côté des forces de l'ordre, ni du côté des manifestants. Et je peux dire dans le sens inverse, ni du côté des manifestants, ni du côté des forces de l'ordre. Moi, il n'y a pas un seul jour, quand je travaillais sur Notre-Dame-des-Landes, où j'ai pensé au risque. En plus, il y avait des gens sur Notre-Dame-des-Landes qui étaient prêts à mourir pour Notre-Dame-des-Landes. Hein. Donc j'avais bien conscience de ça. Donc mon obsession, et c'est pour ça que je travaillais vraiment très étroitement avec les gendarmes, c'était d'éviter tout dérapage. Et malheureusement, il y a eu un blessé tout à fait en fin de période. Et c'est un jeune qui justement n'était pas un émeutier professionnel, qui a pris une grenade dans sa main au lieu de la prendre avec une raquette, la renvoyer avec une raquette, et il a perdu la main. Et j'en étais vraiment... J'ai trouvé ça terrible. Voilà, donc il faut absolument ne pas oublier la vie humaine. On ne joue pas avec la vie humaine.
Il y a aussi quelque chose de très particulier, Romain Huette, dans l'émeute, et vous le racontez bien dans votre livre sur le vertige de l'émeute aux presses universitaires de France, c'est qu'il y a les émeutiers, et puis il y a ceux qui les regardent, qui les regardent avec envie ou avec désir d'y aller, ou ceux qui les regardent avec réprobation. Mais en tout cas, il y a un spectacle, il y a une mise en scène de l'émeute que vous racontez bien, les poubelles, les grilles de autour des arbres, etc., etc. Tous les objets, les bancs, tout ce qui peut devenir à un moment ou à un autre, les sucettes sur lesquelles il y a des publicités, tout cela peut devenir un projectile, etc.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a quelque chose de dans ce livre. En tout cas, j'insiste sur la dimension du simulacre, l'émeute un peu comme simulacre, c'est-à-dire que la violence qui s'y joue me paraît extrêmement domestiquée, plutôt de faible intensité, au sens où les affrontements, alors évidemment on retient les affrontements les plus intenses, mais de façon générale, il s'agit plutôt de créer une atmosphère notamment qui suscite un certain désordre, un certain chaos, une simulation du chaos. Évidemment, la présence de spectateurs qui regardent, qui applaudissent ou qui parfois évidemment critiquent l'action émeutière, elle n'est pas sans effet en fait sur l'action elle-même quoi. Donc ce qui m'importe en fait, c'est de voir que finalement au fond le projectile, enfin la bouteille de verre n'est pas toujours un projectile d'ailleurs. Bien souvent en fait, elle est utilisée ou elle va être mise dans une poubelle, et rien que le bruit du choc des bouteilles entre elles, ça va créer un peu cette espèce d'atmosphère un peu collective. Ça fait partie par exemple de cette dimension affectuelle de l'émeute dont j'essaye de parler.
Déborah Cohen, si je posais la question à l'instant même à Nicole Klein de cette évolution, de ces changements, etc., c'est parce que vous-même, travaillant sur la notion de peuple, vous avez beaucoup travaillé sur les évolutions de ce terme de peuple, que le peuple des ronds-points dont on a parlé pendant toute l'année dernière avec les Gilets jaunes n'était pas le même que celui dont on parlait au 19e siècle, pas le même que celui dont on parlait, par exemple, pendant le Front populaire.
Est-ce que je pourrais revenir 2 minutes sur...
Bien sûr, vous revenez
sur tout ce qu'a dit Nicole Klein sur le rapport à la vie et à la mort et à la violence. Je pense que c'est très important. Vous parliez d'Éric Vuillard, et je trouve très beau dans son livre 14 juillet. Voilà, ce qu'il montre, c'est justement des gens qui entrent dans cette émeute du 14 juillet, plein de vie, et ils rendent très bien la manière dont ils sont engagés dans leurs travaux, la manière dont
très
ils
varié.
Sont à Paris. Voilà. Et bien sûr, il y a des morts dans cette émeute, mais personne n'est prêt à mourir. Et je pense que c'est vraiment insultant, c'est vraiment terrible, moi, je trouve, d'entendre Madame la préfète ou l'ex-préfète dire qu'il y avait des gens qui étaient prêts à mourir sur la ZAD. La ZAD était un lieu de vie, un lieu où on a construit des bâtiments magnifiques, où on a fait des fêtes.
Elle ne nie pas qu'il y a eu des choses de...
Non, mais dire au fond qu'il y avait un désir de mort, je trouve que c'est vraiment... retourner les choses. Ce qui se passe, et c'est pour ça justement, c'est très important de dire aussi que souvent l'émeute, en fait, elle vient d'un retournement de la violence. Alors, on a parlé d'une violence systémique, dans le monde, etc., mais aussi tout simplement le moment du surgissement de l'émeute, c'est un retournement de la violence policière, il faut le dire. Et quand tout à l'heure on me disait la rue, elle est à qui? C'est le moment où il n'est plus possible tout simplement d'avoir une rue pour défiler tranquillement et y exprimer aussi une colère. Il faut se la réapproprier autrement. Et justement, dans l'histoire, on voit très très clairement que toutes les émeutes, elles surgissent au moment où la violence du pouvoir intervient sur la foule.
Est-ce que ça ne serait
le cas le 14 juillet? La foule que je décrivais tout à l'heure, la foule tranquille, elle arrive place Vendôme, elle est menacée par des soldats, et là elle répond par des jets de pierre. Elle se déplace ensuite vers la place Louis XV, qui est la place de la Concorde. Mmh. Le prince de Lambesc ordonne une charge de cavalerie, et là c'est l'escalade de la violence, il y a des barricades, on va chercher des armes, et on va chercher des armes à la Bastille. Et tout ça, et cette émeute gigantesque du 14 juillet, elle avait commencé, comme je vous l'ai dit, juste par une demande très tranquille du retour de Necker.
Je donne la parole à Nicole Klein. Nicole Klein, vous avez aussi en tête, comme j'imagine les émeutiers ont en tête des exemples historiques, vous en avez aussi des exemples historiques que vous avez appris en lisant comme moi Victor Hugo, et aussi en lisant d'autres auteurs, ou en ayant en tête... Vous le citiez tout à l'heure, Maurice Grimaud, le préfet Lépine, j'imagine.
Oui, mais moi, contrairement, je ne suis pas, je fais pas d'idéologie dans cette affaire-là. D'ailleurs, mon approche de Notre-Dame-des-Landes était le plus pragmatique possible. Et je suis allée aussi sur la ZAD. J'ai vu en effet des choses très intéressantes. J'ai aussi vu des choses moins belle, hein, en particulier la gestion des déchets. Il y aurait fort à dire. Donc moi, je me refuse l'idéalisation. Je pense qu'il y avait des choses intéressantes. J'ai rencontré personnellement un homme qui m'a dit qu'il était prêt à mourir pour la ZAD. Donc ce n'est pas idéologique, c'est un constat. Je pense qu'il y a des gens qui sont pris dans une dynamique qui n'est pas toujours très positive. Donc c'est des observations. Moi, je suis une pragmatique par nature.
Ouais. Mais néanmoins, vous ne pouvez pas nier qu'il y a un discours du pouvoir, quel qu'il soit. Enfin, d'ailleurs, que ça soit un discours au moment de François Hollande ou au moment de Emmanuel Macron ou auparavant sous Nicolas Sarkozy, qui effectivement ne sait peut-être pas toujours appréhender ce qui se dit derrière les débuts d'émeutes ou derrière les débuts d'insurrection. On a là aussi une incapacité parfois à comprendre ce qui est en train de se passer, le neuf qui est en train de naître sous la croûte de l'histoire, par exemple.
Non, mais c'est vrai que moi, sur ce dossier-là, je suis allée. J'ai parlé avec les gens et je pense que c'est absolument indispensable de se mettre autour d'une table justement pour qu'il y ait le moins d'émeutes possibles qui mettent en danger la cohésion de la société.
Oui, et de votre côté, est-ce que vous avez repéré cela, Romain Huette, dans le discours à la fois des émeutiers, si ceux que vous avez croisés, les Black Blocs avec lesquels vous avez avancé en tant qu'observateur, je ne sais pas si vous étiez participant, mais en tout cas observateur de ce qui se faisait, ou les Gilets jaunes, en l'occurrence, est-ce que vous avez noté à la fois leur discours évoluant et de l'autre côté, le discours des forces de l'ordre qui étaient en face.
J'en sais trop rien et d'ailleurs je serais pas non plus capable de savoir jusqu'où sont capables d'aller les gens. C'est un peu difficile à répondre à ce genre de questions. Par contre, qu'il y ait une certaine obstination, c'est assez clair et ce qui montre aussi en fait l'attachement qu'il y a à un certain nombre de projets, l'attachement qu'il y a à un certain nombre de revendications. Il y a un point moi qui me paraît très très intéressant, c'est pourquoi les émeutes gênent tant, c'est parce qu'elles sont inintelligibles en fait. Pendant la loi travail, il y a eu un collectif qui s'appelait le collectif ingouvernable. Et c'est une pratique de résistance, au fond, finalement, qui est essayer de ne pas se rendre compréhensible, justement de ne pas aller autour d'une table. Parce qu'autour d'une table, il y a évidemment des rapports de pouvoir, il y a une visée du consensus, et qu'au fond, finalement, en fait, à un moment donné, peut-être que cette politique de composition, cette idée de consensus, ouais, il ne peut pas y en avoir. Quoi. Et donc l'idée, c'est comment, en fait, arriver à être indéchiffrable, et finalement, au fond,
On est proche, effectivement, des Anonymous, on est proche aussi de tout ce qu'on voit avec la figure du Joker qui apparaît maintenant dans les manifestations, le masque, la volonté de ne pas être reconnu. Nicole Klein se pose sûrement la question de savoir pourquoi ils ont des cagoules, ceux qui sont dans les Black Blocs, et c'est peut-être pour ne pas être reconnu, justement.
Mais il y a une question quand même qui est, à mon avis, la plus importante, c'est que disent-elles de notre présent ? C'est-à-dire qu'évidemment, il n'y a personne qui a une passion émeutière en tant que telle. C'est un construit, ça dit quelque chose de notre présent. Et une des choses que ça dit probablement, c'est effectivement peut-être une rigidification des rapports de force, une rigidification du pouvoir, une difficulté en fait à faire entendre un certain nombre de revendications dans les voies classiques du politique. C'est ça qu'il faut peut-être un peu mesurer et comprendre du coup davantage finalement comment se fait-il que ça peut déborder comme ça le fait en ce moment.
Déborah Cohen, il y a une question que je me pose et qu'on se pose collectivement au temps du débat en préparant une émission comme celle-ci, mais aussi en préparant l'émission sur le maintien de l'ordre qu'on a fait il y a quelques temps, ou en réfléchissant à la question justement du masque, du Joker et de toutes ces volontés de se cacher justement de la reconnaissance faciale ou d'autres choses. Il y a une question qu'on peut se poser, c'est comment on peut valoriser l'émeute dans un endroit du monde parce que cette émeute est, par exemple, à Hong Kong, au Chili, une volonté de libération, et en même temps se trouver effectivement gêné quand cette émeute se déroule sur nos propres tropiques, d'une certaine façon, sous notre propre climat. Et en particulier, par exemple, je me souviens d'avoir vu dans des journaux la tenue des manifestants de Hong Kong. Ils ont les masques, ils ont les lance-pierres, ils ont de quoi lancer les pavés, de quoi lancer des flèches, et on les considère comme des résistants à un ordre qui serait un ordre totalitaire, et je trouve toujours un peu étonnant d'avoir ces deux facettes, d'une certaine façon, qui sont parfois contradictoires.
Oui, c'est très juste, et c'est juste aussi, vous décrivez une sorte d'idéalisation de l'émeute géographiquement éloignée, mais c'est très juste aussi quand on pense à l'idéalisation de l'émeute historiquement éloignée. C'est pour ça que j'essaye de parler du 14 juillet,
ouais, je sais pas,
du 10 août. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, ces émeutes-là, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est des éléments très importants, très très beaux, très respectables de notre République. Et je pense que Nicole Klein, comme telle, par exemple, y adhère complètement. Je pense que si elle avait été préfète, enfin, il n'y avait pas de préfet à l'époque, on est d'accord, mais si elle avait été préfète de Paris,
on ne fait pas de politique fiction.
Elle aurait agi comme elle a agi sur la ZAD. Donc il y a cette espèce de distance. Et sur les masques, en fait, c'est une pratique très ancienne. Hein. Je veux dire, au 18e, on se masque aussi. Il y a une célèbre émeute.
On ne veut pas que les mouches du préfet de police de l'époque vous reconnaissent.
Voilà. Et puis, c'est aussi marqué. Il y a un enjeu pratique, et puis il y a aussi, je pense, ce que disait Romain Huet, c'est-à-dire qu'on crée un autre lieu, un autre temps, une autre identité pour figurer l'espoir d'autre chose.
Nicole Klein.
À son identité.
Oui, Nicole Klein, est-ce que on sait, on prédit, on imagine pourquoi une manifestation va pouvoir, à un moment ou à un autre, tourner à l'émeute, le craindre, ou est-ce que à d'autres moments, on ne le sait pas et on est pris à contre-pied? C'est-à-dire, par exemple, hier, tout s'est bien passé. Il y avait 300 000 personnes, dit-on, selon la police, dans les rues de Paris et du reste de la France. Ça s'est bien passé. D'autres moments, ça pourra mal tourner. Est-ce qu'on a une idée de ça?
Moi, je crois qu'une des difficultés qu'ont les services de renseignement qui font partie du fonctionnement démocratique, c'est devant ces nouveaux phénomènes, comment on les interprète. Et d'ailleurs, les historiens qui sont à l'antenne, ils sont à peu près sur la même longueur d'onde, mais pas tout à fait non plus. Hein, donc ce mystère de qu'est-ce qui va se passer. Et puisque vous savez qu'il y a des prévisions de participation aux manifestations, quelquefois,
personne n'avait prévu, par exemple, dit Le Canard Enchaîné, personne n'avait prévu que la manifestation de jeudi dernier aurait 800 000 participants.
Et que celle d'hier en aurait moins. Hein, donc il y a quelque chose d'aléatoire. Moi, ce qui m'a frappé sur Notre-Dame-des-Landes, c'est la difficulté des services de renseignement de s'adapter à ce nouveau contexte, à cette nouvelle population, à ces nouvelles crises, parce qu'en fait, il faut quand même qu'on avance et donc qu'on trouve des solutions.
Oui, de votre côté, Romain Med, vous avez une interprétation. Pourquoi, par exemple, hier, ça ne tourne pas à l'émeute? Pourquoi le cortège de tête est-il circonscrit? Pourquoi, au bout du compte, on n'arrive pas justement à d'autres moments, à de la casse?
J'en sais rien, mais en tout cas, on peut trouver ça relativement sain de voir qu'on a une population qui arrive à se rendre illisible, un peu imprévisible, qui arrive à déjouer.
Si on est du côté du pouvoir, je pense qu'on ne trouve pas ça sain, mais.
Mais je pense que, en fait, il faut, évidemment, en fait, avec l'émeute, on crée un climat un petit peu anxiogène. On a, l'émeute n'est jamais une fin en soi. Je pense pas qu'elle ait vécu de cette manière-là par les personnes qui ont l'habitude d'en pratiquer. Donc, on a ici un mouvement qui est populaire, qui est extrêmement fort, dans lequel, a priori, il y a un certain nombre de corps de métier qui sont en train de converger les uns avec les autres. Voilà, tout dépend évidemment aussi de la situation dans la rue, des positionnements des forces de police. Une force de police qui va au contact, comme elle a tendance à le faire depuis le 16 mars, évidemment, s'expose en retour évidemment à des formes de contournement ou de violence qui peuvent aussi, elles aussi, monter en intensité. C'est un jeu qui est très difficile à saisir parce que bien souvent, ça se joue aussi dans l'interaction. Vous pouvez avoir des gens qui sont préparés, qui ne vont jamais administrer la violence, tout comme vous pouvez avoir des gens qui
ne le sont pas,
jaunes, voilà, et puis se laisser gagner évidemment par la nécessité parfois d'ailleurs de poser une certaine résistance, notamment lors d'affrontements.
Et de votre côté, Déborah Cohen, pour avoir un dernier mot de votre part au téléphone, justement cette question de quand on est historien ou historienne, on cherche à trouver les causes. Pourquoi justement le 14 juillet est devenu le 14 juillet, pourquoi à un autre moment ça ne s'est pas passé? Est-ce qu'on arrive à lire justement ces questions-là très brièvement?
Bon, il n'y a pas de règles absolues. Par contre, c'est assez fréquent dans l'histoire que l'émeute se déclenche dès qu'il y a un mort, c'est-à-dire dès que la la répression a fait des morts. Là, il y a le collectif s'agrège pour le venger. Et là, c'est le cas le 14 juillet. C'est le cas, je pense, en 2005. Hein, 2005, vous vous souvenez, ça surgit après la mort de Buna Traoré et Ziad Benas. C'est le cas en 2011 en Angleterre avec la mort de McDonagh. Et c'est le cas, pour prendre quelque chose de plus différent, par exemple, il y a un historien de l'Atlantique et des révoltes d'esclaves dans l'Atlantique, qui s'appelle Rediker. Marcus Rediker, hein, qui montre que les émeutes d'esclaves hein, sur les bateaux, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Ça surgit quand même dès quand il y a vraiment eu des traitements particulièrement mignons et qui ont abouti à des morts. Voilà. Donc, inversement, je pense que si hier, par exemple, à Rouen, la manifestation a été barrée par les forces de police. Les manifestants ont voulu avancer et finalement, pour prendre une rue qui n'était pas prévue par le cortège, là, si la police avait répliqué violemment et n'avait pas cédé comme elle l'a fait finalement, là, ça aurait pu partir vraiment.
D'autant que c'est un cas particulier à Rouen avec ce qui s'est passé à Lubrizol il y a quelques semaines. Merci beaucoup à vous, Déborah Cohen. Je rappelle que vous êtes auteur du titre Peuple dans la collection donc d'Anna Moser qui s'intéresse à des grands mots justement qui ont forgé notre imaginaire commun. Pour votre part, Romain Huet, Le Vertige de l'émeute, c'est aux Presses universitaires de France. Et merci beaucoup à vous, Nicole Klein, d'avoir accepté la discussion. C'était fort riche et très gentil de votre part d'être là justement pour pouvoir apporter la contradiction, mais aussi et donner des précisions sur votre action de préfète qui remonte maintenant à 2006, puisque vous avez été préfète à l'égalité des chances, mais également à Notre-Dame-les-Landes. Comme d'habitude, le temps du débat était préparé par Chloé Camprolin, Fanny Richer, Rémi Bay, Hugo Boursier, Louise André, Jean-Guilain Mège était à la technique avec nous, Alexandre Manzanares à la réalisation.